France Culture.
Dans la lecture, dans la tentative de compréhension de l'actualité anxiogène que nous traversons, les références à l'histoire sont partout. Et plus exactement, les références à l'entre-deux-guerres. On entend parler de guerre mondiale, d'esprit de Munich, de crise de Suez, des grandes alliances, du fascisme, d'Hitler ou de Mussolini. Mais à quel point ces références sont-elles pertinentes? À quel point les analogies entre hier et aujourd'hui, entre les années 30 et le contemporain, entre 1938 et 2025, sont-elles pertinentes et fécondes? Pour en discuter, pour en débattre également, deux invités ce soir. Olivier Vivorca, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur à l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay. Vous avez publié en février dernier avec le général Durieux cet ouvrage intitulé « Les maîtres de la stratégie » de Sun Tzu à Warden. C'est un ouvrage qui a apparu aux éditions du Seuil. Avec nous et à distance, Olivier Manoni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes traducteur de la dernière édition de Mein Kampf, c'était chez Fayard en 2021. Vous êtes essayiste, vous avez publié en 2022 « Traduire Hitler ». Et en octobre dernier, Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue, tous les deux parus aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et je remercie toutes les équipes d'ICI, Béarn, Bigorre qui permettent de nous connecter à vous. Excellente émission.
J'aime l'histoire, je réfléchis toujours en essayant de trouver des références historiques parce que c'est quand même extrêmement précieux. En même temps, je sais qu'il faut jamais être prisonnier des références historiques. Mais si on avait envie de se faire plaisir dans une formule, je suis pas sûr que ce soit le moment pour se faire plaisir avec des formules, on dirait qu'on oscille entre Munich et Suez. On oscille entre la mauvaise paix qui ne préservera rien et qui est une honte, et la mauvaise action, ou plus exactement l'action qui, en réalité, traduit l'impuissance, c'est l'action franco-britannique de Suez 56. Donc, on oscille entre ces deux références historiques, et encore une fois, il ne faut pas être prisonnier de ces références historiques.
La voix de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et qui était l'invité de la matinale de France Inter avant-hier. Alors, comment utiliser, Olivier Vivorca, les outils de l'histoire pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que les analogies qui constellent le débat public nous aveuglent, nous empêchent, ou est-ce qu'elles nous permettent de mieux saisir le moment de bascule dans lequel nous nous trouvons?
Les deux, je pense que les analogies nous aident à la fois à réfléchir, tout simplement parce qu'elles montrent des liens de causalité, elles montrent des rationalités qui ont existé dans le passé et qui peuvent se reproduire. En même temps, ces analogies peuvent parfois nous aveugler, tout simplement en pensant qu'il y a au fond une forme de mécanicisme qui amène nécessairement au même résultat. Donc, en fait, l'histoire est à la fois, et Édouard Philippe le disait, une source qui est claire, mais également une source qui peut aveugler.
Mais vous pointez quelque chose de très difficile justement à distinguer. Comment faire l'indistinction justement entre ces liens de causalité que vous tentez de mettre en lumière dans votre travail d'historien et ce mécanicisme dont il faut se prémunir?
Eh bien, je crois qu'il faut toujours faire attention au contexte, essayer d'intégrer des paramètres auxquels on ne pense pas nécessairement. Et donc, c'est précisément en évitant l'anachronisme qui est l'ennemi mortel des historiens, que l'on arrive, je pense, à avoir une certaine lumière.
Olivier Manoni, les analogies que vous formulez vous-même, elles sont d'ordre linguistique. Là aussi, comment vous tentez de rapprocher les époques, mais plus exactement les textes et les discours?
Alors pour ce qui me concerne, en fait, donc je suis pas historien, mais effectivement linguiste et traducteur, les analogies que je vais chercher, en fait, je les trouve, c'est-à-dire qu'elles sont, en l'occurrence, littéralement venues à moi. Au moment où je traduisais la nouvelle édition de Mein Kampf avec l'équipe d'historiens qui m'entourait, j'ai vu des mots qui remontaient d'abord en France, puis petit à petit aux États-Unis, et deux années plus tard, quand j'ai écrit Coulée brune, je me suis aperçu qu'aux États-Unis, notamment dans les discours de campagne de Donald Trump, revenaient des phrases que j'avais traduite et que j'avais traduite dans Mein Kampf et qui revenait littéralement. C'était même plus des analogies, c'était des phrases qui sortaient de ce livre épouvantable que j'ai essayé de faire ressortir dans le contexte, parce que là aussi une phrase isolée ne veut strictement rien dire, mais quand elles sont 3, 4 ou 5 et quand elles correspondent à un certain nombre d'idées qui sont propagées par un responsable, on peut commencer à se poser des questions. C'est dans cet esprit-là que je travaille.
La voix de Joan Chapoutot, un autre historien, il est l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard, intitulé « Les irresponsables, comment la droite allemande a mis Hitler au pouvoir ».
Pour des périodes plus contemporaines, on peut essayer d'identifier des analogies, c'est-à-dire des comparaisons de situations, des comparaisons de structures, qui ne sont pas des assimilations, Il ne s'agit pas de dire que telle personne est Hitler ou que telle personne aujourd'hui est Papen. Mais il s'agit de dire que, terme à terme ou bloc à bloc, quand on prend les structures sociales et politiques de l'Allemagne dans les années 20 et 30 et les nôtres aujourd'hui, on identifie des acteurs qui sont équivalents, qui sont des équivalents fonctionnels les uns les autres, et qui défendent des intérêts qui sont comparables. C'est ce que le matérialisme historique a identifié comme étant des classes sociales, avec des intérêts de classe et avec des luttes de classe pour faire prévaloir ces intérêts-là. Et il me semble que ce que nous pouvons vivre dans l'ultra-contemporain depuis une décennie ou plus en France, par exemple, et ce qu'il se produit en Allemagne à la fin des années 20, au début des années 30, est de fait analogue. Il y a une correspondance, parce qu'il y a des acteurs sociaux qui défendent mordicus leurs intérêts propres, égoïstes, patrimoniaux, de classe, fiscaux, sociaux, au détriment de tout bien commun, qui est ignoré, de tout intérêt général, qui n'est jamais pensé, et au prix d'un usage totalement instrumental de la Constitution et des institutions.
Vous êtes d'accord, Olivier Vivorca, avec ce que dit Joanne Chapoutot à l'instant? Dans le fond, ce qui compte lorsqu'on fait des analogies en histoire, c'est d'identifier les continuités dans les structures sociales. C'est d'abord et avant tout cela qui compte, bien plus que les notions, les dates, les événements.
Oui, bien évidemment, cela a son importance, mais il n'y a pas que les structures sociales. Il y a aussi les phénomènes culturels, il y a aussi les émotions. Tous ces éléments jouent un rôle extrêmement important. Par ailleurs, dans l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, il y a une très grande responsabilité de la droite, et Yann Chapoutot a raison de le dire, mais il y a aussi une très grande responsabilité de la gauche. On voit très bien que pour Moscou et pour les communistes, l'Allemagne était en crise, et de cette crise allait naître la révolution. Il y a donc eu aussi une spéculation de la part de la gauche sur, au fond, l'effondrement d'un régime dont on souhaitait le dépassement.
Olivier Mannoni, si je vais droit au but, est-ce que Donald Trump a quelque chose d'Hitler en lui, hein? C'est ce que vous tentez de décrire, de raconter dans Coulée Brune, notamment en comparant des discours, en comparant des textes, en comparant des mots que l'un et l'autre emploient. Alors à quelle conclusion êtes-vous arrivé dans ce domaine?
Quelque chose d'Hitler, je ne sais pas, j'irai pas jusque-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce que je sais, c'est que dans son langage, s'est imposé au fil du temps une terminologie qui est directement celle de l'extrême droite fascisante et depuis peu de temps, enfin depuis quelques mois, une terminologie qui vient directement du nazisme, hein, que j'en donne des exemples dans mon livre, parler de migrants comme d'animaux, dire qu'ils vont contaminer le sang des États-Unis, ce sont des expressions qui sortent directement de la phraséologie nazie et des termes qu'utilisait Mein Kampf. La question que je me suis posée après, et que je me pose toujours aujourd'hui, c'est dans quel but il fait ça, et surtout qui lui l'incite à le faire, parce que je doute très fortement que Donald Trump ait lu Mein Kampf ou autre chose d'ailleurs, mais bref. Deux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et quand on aligne ces citations avec les actes qu'il a accompli ou qu'il veut accomplir, on arrive à un tableau quand même très très inquiétant. Moi, au début, il y a 6 mois, quand mon livre est sorti, les gens me disaient « mais vous dites n'importe quoi, il n'est pas prêt d'envahir la Pologne ». Aujourd'hui, il est quand même prêt d'envahir le Panama, le Groenland et le Canada. C'est quand même des éléments, avec ce langage-là derrière, qui peuvent poser de très très sérieuses questions sur ses intentions. C'est quelqu'un qui en général exprime ce qu'il veut faire. La présence de ces traces très nombreuses maintenant de langage fasciste ou nazi dans son discours et les actes qui suivent sont pour moi très très inquiétants.
Olivier Vivorca, l'historien de la Seconde Guerre mondiale que vous êtes, que pense-t-il justement de cette analogie entre Donald Trump et Adolf Hitler? Le risque avec Adolf Hitler, c'est évidemment qu'il emporte tout le reste, hein. C'est sans doute la figure la plus mobilisée pour des analogies. C'est parfois un réflexe facile.
Oui, bien sûr, c'est un réflexe facile. Et je pense que ce que vient de dire Olivier Mannoni est extrêmement troublant. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut juste bien souligner que deux éléments méritent d'être rappelés. Le premier, me semble-t-il, c'est que nous ne sommes pas non plus dans des structures de pouvoir comparables. C'est-à-dire que Adolf Hitler s'appuyait aussi sur un parti unique qui avait un rôle, les SA, les SS, etc., etc. Donc là, on a quand même une différence dans le fonctionnement. Et l'autre élément, et là, je renvoie à la biographie de Yann Kershaw qui insiste sur le pouvoir charismatique, il y a un charisme. de Hitler, il y a aussi un charisme de Trump. Et c'est ça qui est le plus troublant. À la limite, la personnalité de Trump joue, bien entendu, mais pourquoi n'y a-t-il pas d'opposition ? Pourquoi tous ces étudiants qui se mobilisaient sur les campus autour de la Palestine ne se mobilisent pas alors que le sort de leur pays, le sort de la démocratie américaine est en jeu et je ne parle même pas de l'ordre mondial. Voilà qui me trouble, de même que me trouble l'absence de réaction de conservateurs, je dirais classiques, réganiens, hein, pour aller vite. Pourquoi ces conservateurs n'osent-ils pas franchir le Rubicon? C'est ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. Chamberlain n'était pas du tout un personnage unanimement respecté dans les rangs du Parti conservateur, et des gens comme Churchill ruaient dans les brancards. Là, personne ne rue dans les brancards. Voilà ce qui, moi, me trouble profondément.
Est-ce qu'on pourrait non arguer du fait que Donald Trump a été élu il y a quelques mois seulement, qu'il a pris le pouvoir il y a quelques semaines seulement, et qu'il faut un temps pour que l'opposition puisse se structurer ?
Oui, vous avez entièrement raison. Il y a un temps déjà pour comprendre.
Pour saisir ce qui arrive.
Pour saisir ce qui arrive. Donc l'idée, si vous voulez, qu'un événement soit immédiatement lisible par les contemporains est une erreur. Il faut du temps pour comprendre. Et là, malheureusement, le temps galope. Chaque journée porte une nouvelle plus effarante que la précédente. Donc effectivement, il est très difficile d'en prendre la mesure. Ceci dit, le dénuement idéologique du Parti démocrate et l'absence de courage dans les rangs républicains, car Donald Trump rompt avec un certain héritage républicain, est tout à fait troublant.
Alors justement, la voix de Donald Trump, il s'exprimait en novembre 2023. Je vous ferai réagir évidemment, Olivier Emmanoni, vous nous ferez une exégèse de ce texte et de ce discours.
Avec votre aide, votre amour et votre vote, nous ferons passer l'Amérique en premier. Et aujourd'hui, en particulier en l'honneur de nos grands vétérans, à l'occasion de la journée des anciens combattants, nous vous promettons d'éradiquer les communistes, les marxistes, les fascistes et les voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans les confins de notre pays, qui mentent, volent et trichent lors des élections et qui feront tout ce qui est possible, légalement ou illégalement, pour détruire l'Amérique et le rêve américain.
Olivier Mannoni, comment est-ce que le traducteur d'Adolf Hitler, le traducteur de Mein Kampf en français, lit, perçoit ce discours de Donald Trump ?
Comme un texte absolument terrifiant. D'abord, d'une manière très générale, ce terme de l'Amérique au-dessus de tout, c'est évidemment un écho aussi de Deutschland über alles, hein, c'est-à-dire le slogan, enfin l'extrait de l'hymne allemand que les nazis avaient porté au pinacle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ce que dit Trump, au-delà de la violence extrême de ce qu'il dit, c'est une violence absolument incroyable dans un discours politique, dans une démocratie, il traite ses adversaires, donc pas des ennemis du pays, pas des criminels, il traite ses adversaires de vermine. Et quand il parle de ça, il utilise deux mots que je connais très très bien, hein, en anglais, il dit donc « éradiquer ». Le mot anglais, c'est root out. C'est le pendant exact, le calque du mot ausrotten, qui était un des euphémismes utilisés par les nazis pour parler de l'éradication, comme disait, c'est-à-dire de l'extermination des juifs. C'est le premier point. Deuxième point, le terme de vermine est aussi un texte qui sort directement de la phraséologie nazie. C'est ungeziefer en allemand, et c'était comme ça que Hitler désignait ses ennemis. Donc, outre la violence, ça fait partie de ces très nombreuses influences qui remontent de cette période qu'on décèle dans le texte dans les textes et dans les discours de Donald Trump. Là encore, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, il faudrait savoir d'où ils viennent, qui lui donne ces éléments de langage, si on peut appeler ça un langage.
C'est ce que j'allais vous demander, Olivier Mannoni. Est-ce que dans le fond, ces éléments de langage sont repris consciemment, sculptés en fonction de la pensée nazie, en fonction de textes, en fonction de l'histoire, parce que cette histoire est connue de l'entourage de Donald Trump, ou simplement parce que dans le fond, il y a des ressemblances naturelles entre les deux qui font que Donald Trump emploie lui-même presque mécaniquement ces termes, sans savoir lui-même ce qu'il est en train de dire et de la façon dont ça résonne avec le passé.
Je n'y crois pas un seul instant. Je pense que tout ça est très profondément pensé, par exemple par quelqu'un comme Steve Bannon, par exemple comme quelqu'un comme Stephen Miller, et puis les idéologues de la Fondation qui a publié le projet 2025. J'y crois pas un seul instant parce que outre ces dérapages qui sont absolument pas des dérapages de langage, on a aussi des dérapages gestuels. On a ce geste qu'a fait Elon Musk qui était, à mon avis, mais alors sans aucune espèce de doute, un salut nazi destiné à ses partisans à droite à gauche. Les partisans en question d'ailleurs l'ont pris comme tel et l'ont acclamé. Puis le geste de Steve Bannon qui a récidivé pendant le congrès des conservateurs. Ces deux éléments, plus tout le reste, si vous voulez, me font penser qu'il y a vraiment une volonté très claire. Alors peut-être pas de reprendre l'héritage nazi à son terme, mais de rallier une partie de la population américaine qui voit tout ça finalement d'un assez bon œil, en se disant bon, et on le lit de plus en plus sur les réseaux sociaux, finalement Hitler il a fait du travail, utiliser, si vous voulez, cette espèce de phraséologie simplement pour s'ouvrir les portes d'un pouvoir absolu. Je pense pas fondamentalement que ça soit un retour du nazisme, ça n'a aucun sens, l'histoire ne se répète jamais. Je pense que simplement on utilise ces courants qui sont extraordinairement dangereux pour justifier des choses qui, à terme, vont aussi pouvoir être abominables. On parle quand même d'expulser 11 millions de personnes des États-Unis, on parle quand même de déporter 2 millions de Gazaouis hors de leur pays pour les mettre on ne sait où. On est quand même dans les faits qui sont annoncés aussi, dans des choses d'une violence qui se limite pas du tout aux mots.
Vous êtes d'accord, Olivier Viviurca? Évidemment, l'histoire ne se répète jamais, l'histoire ne se répétera pas, mais du moins, ces références sont mobilisées sciemment, consciemment, par Trump et par son entourage?
Oui, je pense que Olivier Mannoni a raison. Ce qui me frappe et ce qui m'étonne, c'est qu'elles aient une résonance aux États-Unis, alors que les États-Unis, bon, certes, vous avez eu des nazis avant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Mais au fond, il n'y avait pas une très grande proximité, me semble-t-il, entre les Américains, pour aller vite, et le nazisme. Par ailleurs, la Seconde Guerre mondiale est quand même considérée comme the good war, hein, par les Américains. Donc, qu'il y ait cette résonance, voilà qui est, de mon point de vue, extrêmement troublant.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous-même, Olivier Viviurca, d'utiliser d'une autre façon la figure d'Adolf Hitler, notamment pour tenter de mieux cerner, de mieux comprendre, alors avec une autre méthodologie que celle employée par Olivier Mannoni, mais tout de même pour rapprocher la figure d'Adolf Hitler avec celle de Vladimir Poutine? C'est ce que vous avez fait notamment dans une tribune que vous avez fait paraître dans le journal Le Monde il y a quelques jours.
Oui, je ne cherchais pas à comparer les deux personnages, je cherchais à comparer les deux stratégies, comment ils procèdent. Donc la manière dont les deux hommes ont procédé a été, dans une certaine mesure, identique. C'est tester, au fond, la capacité de riposte des démocraties et ensuite les diviser, le tout au service d'un projet hégémonique et expansionniste. Et c'est aussi ce qui est très frappant de la part de la Russie aujourd'hui, c'est cette volonté d'expansion, c'est cette volonté d'hégémonie qui, au fond, jusqu'à la chute du mur de Berlin, se cantonnait au fond au maintien de la sphère d'influence qu'au fond les Américains avaient reconnue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui aujourd'hui, précisément, est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle frappe des États souverains qui étaient sortis de cette orbite soviétique.
Olivier Mannoni, le travail que vous avez mené avec Donald Trump, vous auriez pu l'effectuer au sujet des discours, des textes signés de la main de Vladimir Poutine ?
Très vraisemblablement, ou en tout cas certains ça apparaît encore plus clairement dans certains des penseurs, si on peut appeler ça comme ça, de son entourage. Je pense en particulier à Dugin, où vraiment vous avez une idéologie de la race qui se détache très clairement, une idéologie de la pureté russe. Ce qui lie le plus, je trouve, le Trump et Poutine en ce moment, c'est leur espèce de haine de ce qu'ils appellent tous les deux le wokisme, c'est-à-dire la haine de tout mode de vie qui diverge d'une espèce d'idéal militaire viriliste. Et c'est en ce sens-là, au sens d'Umberto Eco, qu'on peut parler de fascisme, et d'ailleurs on peut en parler pour les deux personnages. Il se trouve que il y a quand même une analogie aussi très très forte, hein, entre les époques, du point de vue culturel. C'est que la République de Weimar a été aussi une énorme poussée de libération sexuelle, et que cette libération sexuelle a été l'une des cibles préférées des nazis dans leur campagne, c'est-à-dire qu'ils se sont adressés à la bourgeoisie allemande pour leur dire: regardez, on est en train de dépraver votre pays, on est en pleine décadence et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et là, que ce soit en Russie ou dans le discours de Donald Trump, on a des phénomènes exactement analogues, c'est-à-dire la désignation d'un ennemi à réprimer, à expulser, éventuellement à abattre.
Le mot vient d'être utilisé par Olivier Mannoni, Olivier Wieworka. Est-ce que cette notion-là de fascisme, est-ce qu'elle est utile là aussi pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre plus largement la méthode politique, la façon de gouverner, d'exercer le pouvoir de Donald Trump? Parce que Donald Trump a des atours de fasciste.
Alors je crois qu'il faut se méfier de la comparaison. Je ne veux pas dire que tout le travail sur le langage qu'Olivier Mannoni propose est tout à fait fascinant et intéressant. Et je pense que, comme il le fait, il faut faire attention aux mots. Bien entendu, les dirigeants utilisent des mots à bon ou à mauvais escient, mais en tous les cas de manière intentionnelle. Donc ils font attention à leurs paroles. Ceci dit, vous le savez, on a pu qualifier Trump de populiste, on a pu qualifier la voie dans laquelle il s'engage de démocratie libérale. Est-ce que tout ça nous aide à penser ? Est-ce que tout ça nous aide à penser ce qu'il faut faire pour essayer de riposter ? Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que c'est effectivement intéressant du point de vue intellectuel et spéculatif d'essayer de caractériser ce qui arrive, en soulignant quand même, je le répète, qu'il y a beaucoup de différences entre la manière dont Trump procède et le fascisme. Je reviens sur la question du parti unique, qui est un enjeu absolument central. Il n'y a pas de parti unique, il n'y a pas de mobilisation des masses, au sens, me semble-t-il, où le fascisme le faisait.
Il y a une forme de culte du chef, tout de même.
Donc, il y a une forme du culte du chef, bien entendu, mais plus dans l'obéissance que dans le culte de la personnalité. Ceci viendra peut-être, hein, mais on n'a pas encore aujourd'hui les portraits de Trump, les autels et les icônes dédiés à sa personne. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faut effectivement, Olivier Mannoni le rappelle, bien faire attention au langage, parce que le langage n'est pas neutre. Et de ce point de vue-là, les ressemblances qu'il note, les ressemblances qu'il pointe, sont tout à fait éloquentes. Mais je ne crois pas, si vous voulez, que caractériser Trump de fasciste ou de populiste ou de national-populiste ou de démocrate illibéral nous aide véritablement à prendre la mesure de ce qui est en train de nous arriver.
Olivier Mannoni, une réaction, puisque c'est vous qui avez employé ce terme-là, celui de fasciste, de fascisme, pour comprendre qui était, selon vous, Donald Trump.
Alors moi, je l'emploie, mais moi aussi avec prudence, dans le sens où l'entend Umberto Eco, hein, qui a déterminé 14 points, et on en a beaucoup qu'on retrouve chez Trump, le culte de la personnalité, le virilisme, voilà. Après, moi, ce qui me frappe le plus, si vous voulez, chez Trump, c'est cette volonté de créer ce que les Allemands appelaient une Volksgemeinschaft, c'est-à-dire une citoyenneté réduite, en privant petit à petit des gens de son pays d'un certain nombre de droits. Ça a été le même phénomène. Ça n'aide pas, et Olivier Wieworka a tout à fait raison, ça n'aide pas à résoudre le problème. Mais pour essayer de résoudre le problème, et de toute façon, ce n'est pas nous qui allons le faire depuis la France, il faut aussi essayer de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de parti unique, c'est vrai, mais il y a un parti qui est devenu monolithique et qui est totalement aux ordres de son chef. Il n'y a pas de portrait géant, mais je ne sais pas si Olivier l'a vu dans un clip que Donald Trump a diffusé sur son propre réseau qui concernait Gaza, qui montrait Gaza comme le futur paradis de la future Côte d'Azur du Proche-Orient. Il y a quand même à un moment une statue qui fait à peu près 40 mètres de haut, en or massif de Donald Trump, qui tourne et qui rayonne sur cet univers. On a quand même des signes qui sont très inquiétant au niveau des symboles, au niveau des langages, en tout cas d'une hyper-personnalisation du pouvoir, d'un pouvoir extrêmement autoritaire. Hein. Encore hier matin, on a eu un message de Donald Trump sur son réseau qui prévenait qu'il n'y aurait plus aucune subvention pour les universités qui autoriserait les manifestations et que les étudiants qui manifesteraient seraient immédiatement renvoyés ou, le cas échéant, arrêtés. Ce sont quand même des propos dans une démocratie qui sont extraordinairement dangereux, etc. Alors, moi, je pense que l'analyse du langage permet au moins de cerner le personnage et de dire qu'effectivement, sans l'apposer, je pense que c'est beaucoup plus qu'une démocratie libérale. Je pense qu'on est quand même dans le cas de quelqu'un qui vise à avoir un pouvoir sinon dictatorial, du moins, extrêmement fort, extrêmement personnel et donc extrêmement dangereux à terme. Et que si c'est pas du fascisme, disons que ça y ressemble beaucoup. Même si je suis d'accord avec Olivier Wieworka, le dire ne résout pas le problème.
L'hebdomadaire britannique The Economist a fait paraître une étude cet après-midi montrant que dans l'Europe des 27, l'extrême droite est désormais la famille politique la plus populaire. Alors si l'on examine la montée des extrêmes droites, hein, parce que ce n'est pas un bloc monolithique, la montée des extrêmes droites au cours des dernières années en Europe, est-ce qu'il y a là des correspondances fortes, évidentes, Olivier Vivorca, avec les années 30?
Oui, bien sûr, parce que les années 30 ont été marquées par la montée des extrêmes droites. Donc la réponse est dans la question. En même temps, il faut bien souligner que ces extrêmes droites, dont je ne suis pas spécialiste, ne sont pas non plus les mêmes. On ne peut pas comparer la droite nationaliste d'un colonel de la ROC, par exemple, au parti nazi. Donc il faut, je crois aussi, faire très attention à ces éléments. Et je crois que ce à quoi aussi il faut prêter attention... c'est le contexte économique, qui est un contexte économique très difficile et qui, effectivement, ouvre une voie d'autant plus grande aux extrémistes de droite que, au fond, la promesse libérale d'une part et la promesse de la gauche réformiste, eh bien, ont déçu. Donc il y a, si vous voulez, une grande forme, me semble-t-il, de ressentiment et de colère qui se canalise dans ces partis extrémistes.
Olivier Mannoni, la montée des extrêmes droites, s'il s'agit d'extrêmes droites différentes, hein, selon que l'on se situe dans les années 30 ou aujourd'hui, est-ce qu'elle empêche justement la comparaison, les analogies entre les deux périodes ?
Oui, les analogies, je suis parfaitement d'accord avec Olivier Vivorca, les analogies sont dangereuses. Même au niveau du langage, si vous voulez, entre le langage de l'AFD aujourd'hui, qui parle de bio-deutsch, hein, un bio-allemand, le langage du Rassemblement National depuis qu'il a mis un tout petit peu le voile sur son langage d'antan, celui de Giorgia Meloni en Italie ou celui d'Orban, on a des différences considérables. De plus, Olivier Vivorca l'a dit, entre le langage qu'on utilise à ce moment-là et le langage qu'on utilise aujourd'hui dans les mouvements d'extrême droite, il y a des différences considérables. Cela étant dit, il y a aussi des techniques langagières qui se ressemblent. Vous avez des euphémismes, des termes de dissimulation qui sont là pour dissimuler les véritables intentions. Je prendrais simplement le terme de remigration, un terme comme français de papier qui renvoie quand même directement à l'époque de Pétain en France, qui permettent de tracer des analogies entre les éléments. Après, c'est vrai que c'est extrêmement différent. Vous parliez de la ROC. Il faut rappeler que Mein Kampf a été publié en France par les Maurrassiens. Et pas du tout pour faire la propagande de Hitler, mais pour lutter contre lui, parce que il luttait contre les Boches, comme il disait à l'époque. Donc les choses sont extrêmement complexes, il faut faire attention. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a un langage d'exclusion de l'autre qui est commun à la fois au mouvement des années 30 et au mouvement actuel. Mais il s'exprime d'une manière tout à fait différente et très nuancée.
En quelques mots, Olivier Mannoni, c'est pas un peu étrange de vouloir publier le livre d'une personne pour la combattre ?
Bah, le mieux, si vous voulez, c'est quand on veut combattre une personne, c'est de savoir qui elle est, ce qu'elle écrit, ce qu'elle pense, si on peut appeler ça une pensée. Ça vaut aussi pour la manière d'être de Donald Trump. Moi, mon livre, j'ai fini de l'écrire au mois d'août, en lançant ce cri d'alarme, en disant attention, il y a des éléments qui laissent entendre qu'on s'achemine vers une pensée proche d'une pensée dictatoriale et excluante. 4 mois plus tard, on est en plein dedans. Je veux dire, là encore, si les gens m'avaient écouté, ça aurait strictement rien changé. Mais en tout cas, essayer de comprendre ce que sont ces personnages à travers la langue qu'ils pratiquent, et chez Trump c'est toujours une langue volontaire et intentionnelle, ça peut quand même servir à mener une analyse politique, et éventuellement pour les politiques, ce que je ne suis pas du tout, à tenter de répliquer, de trouver des issues.
L'une des analogies, peut-être tout de même, Olivier Vivorca, qui frappe depuis quelques jours, depuis une semaine en particulier, depuis cette confrontation dans le bureau ovale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, c'est peut-être la question qui est posée aujourd'hui à toutes les démocraties occidentales. Comment se défendre? Comment organiser sa défense individuelle et collective? Là, il y a évidemment une analogie, en tout cas une question commune entre les deux périodes.
Oui, tout à fait, parce que on le voit bien, en 1940, la défense collective a été très mal organisée. Et là, de ce point de vue, les analogies entre la situation qui prévaut aujourd'hui et la situation passée, ces analogies sont criantes. Il y a eu, si vous voulez, une illusion, et cette illusion était que la guerre avait disparu du continent européen. C'était une illusion parce que, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres, et que l'une des manières, malheureusement, de prévenir les guerres, c'est de disposer d'un outil militaire qui intime le respect et qui est une valeur dissuasive. Cette leçon, elle a été oubliée au lendemain de la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que les contemporains espéraient qu'elle serait la der des der, et elle a été oubliée durant le second XXe siècle, tout simplement parce que, d'une part, l'Union européenne portait la promesse d'une paix et d'une prospérité, et c'est ainsi qu'elle a été vendue à l'ouest de l'Europe, et qu'ensuite le mur de Berlin, ou plus exactement sa chute, ont produit un effet de joie, un effet d'optimisme, un effet de sidération, mais que cet effet de sidération nous a endormis. Et nous a endormis notamment sur la nature du pouvoir russe, qui a toujours été un pouvoir, malheureusement, depuis 1917, un pouvoir dangereux, tantôt en sommeil lorsqu'il essaye de construire le socialisme dans un seul pays, et tantôt, au contraire, extrêmement volontaire. On l'a vu, par exemple, au moment de la crise de Cuba, on le voit pendant la guerre en Afghanistan. Et donc, cette réalité, malheureusement, elle a été oubliée.
Qu'est-ce qui avait dysfonctionné à ce point en 1938? Là aussi, je prends cette date d'une façon un peu arbitraire, mais la logique d'alliance, elle n'existait plus comme elle existait en 1914. Et cette logique d'alliance, on la retrouve plus aujourd'hui non plus. Du moins, aujourd'hui, elle s'effrite, hein, puisque l'article 5 de l'OTAN est en train de se décomposer sous nos yeux. Est-ce que là aussi, il faut établir une correspondance entre cette logique d'alliance effritée en 1938 et ce que l'on vit aujourd'hui, Olivier Vorka?
Alors, si vous voulez, la Première Guerre mondiale a été très largement déclenchée par l'automaticité des alliances. Comme A était attaqué, B répliquait, et c'est ainsi qu'il y a eu un engrenage. Voilà, une sorte de mécanisme, d'où le titre que Christopher Clark a donné à son livre, Les Somnambules. Au contraire, la Seconde Guerre mondiale, ai-je envie de dire, c'est le contraire. C'est parce qu'il n'y a pas d'alliance solide que la Seconde Guerre mondiale éclate. Vous avez eu des alliances, mais qui étaient des alliances vidées de sens. Par exemple, vous avez eu un pacte entre la France et l'Allemagne en 1935, mais qui ne comportait pas de clause militaire. Et au fond, les diplomates du Quai d'Orsay ont été très forts pour à la fois souscrire tout un ensemble d'alliances avec des pays, mais en les vidant de leur sens et de leurs contraintes. Et c'est pour cette raison que Hitler, bien entendu, a pu profiter de cette faiblesse. Aujourd'hui, que voit-on? Eh bien, on voit effectivement que ces alliances se sont déliées. Ce nonobstant, je voudrais quand même insister sur un point. L'article 5 de l'OTAN, sur lequel vous insistez à juste titre, ne prévoit en aucune façon que la riposte armée soit automatique. C'est une possibilité qui est laissée aux États membres. Ce n'est ni une obligation, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. Ce qui m'amène aussi à réfléchir sur une forme d'illusion. Qu'est-ce qui nous dit que les Américains, dans les années 60, si l'Union soviétique avait attaqué l'Allemagne, auraient considéré que cet intérêt était, pour Washington, vital, et qu'ils auraient effectivement déclenché une guerre, au fond, pour sauver le Rhin. Et cette hantise, elle a marqué les Allemands. C'est la peur de ce qu'on a appelé le découplage, hein, l'idée qu'au fond, les Américains ne se battraient pas pour sauver l'Allemagne. Donc je crois qu'il y a aussi eu une forme d'illusion autour de l'OTAN, et sur l'idée qu'il y aurait une réplique, et c'est ce que beaucoup de gens croient avec l'article 5, qu'il y aurait une réplique automatique si on attaquait l'un de ses membres. Ce n'est pas exact.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce fameux parapluie américain dont on parle là aussi depuis plusieurs semaines, c'est un mythe, européen, un mythe allemand en particulier?
Non, je ne dirais pas que c'est un mythe, parce qu'à partir du moment où vous avez des vecteurs nucléaires qui sont en Allemagne, la Russie prend un risque. Ce risque, c'est celui de l'incertitude. Et bien entendu, tous les stratèges vous le diront, l'incertitude en matière de dissuasion est un élément cardinal. L'ennemi ne doit pas savoir comment vous allez répliquer. Donc à partir du moment où, de fait, vous frappez un pays où vous avez des bombes atomiques américaines, vous avez des vecteurs atomiques américains, et ça a été également l'un des enjeux des homicides en 1983, vous prenez un risque élevé. Mais ce n'est pas parce que vous prenez ce risque élevé que vous aurez nécessairement une réplique militaire. Et ça, ce point me paraît important à souligner.
Je reviens, Olivier Manoni, sur cette analogie 1938-2025. Vous nous avez dit, à très juste titre, en préparant cette émission, qu'il fallait s'en méfier pour une raison simple. Il y a un élément qui a changé entre les deux périodes, c'est évidemment la question nucléaire. Comment cela restructure en profondeur la logique des alliances et la logique, j'allais dire, du risque de guerre dont on entend un peu parler régulièrement en ce moment?
Alors, je suis assez mal placé pour en parler, c'est vraiment pas mon, mon domaine de spécialité. Ce que je vois simplement, si vous voulez, c'est dans la, là encore au niveau du langage, c'est les subterfuges utilisés de part et d'autre pour essayer d'échapper à une réalité. 38, c'était un subterfuge de ce type-là. On se retrouve avec des situations à peu près identiques. Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on a... Hitler avait quand même une particularité, c'est qu'il prévenait juste avant. Donc il a prévenu juste avant pour ce qui concernait la Tchéquie, il a prévenu le jour même pour ce qui concernait la Pologne, et ensuite il a il jugeait bon quand il s'apprêtait quand il voulait terroriser un pays, de lui montrer les images de ses invasions précédentes. On a l'impression que Trump tente le même coup, c'est-à-dire que il brandit des menaces en espérant qu'elles vont suffire, par exemple pour négocier des accords sur les terres rares avec l'Ukraine ou la Russie, et pour négocier des accords sur les ressources minières et autres avec le Groenland. C'est une tactique extrêmement dangereuse parce que elle mène nécessairement à des contre-mesures d'ordre militaire et pas seulement politique, et qui peuvent là encore déclencher ce que Olivier Vidurka décrivait il y a quelques minutes, c'est-à-dire des réactions en chaîne totalement incontrôlée et extraordinairement dangereuse.
En quelques mots, Olivier Vivorca, la référence, alors là, tout le monde l'a utilisée, celle-ci, la référence à l'esprit de Munich, le fameux esprit de Munich, même le ministre des Affaires étrangères ukrainien l'a utilisé il y a quelques jours, hein, il a expliqué qu'il ne fallait pas répéter les erreurs de Munich. Là aussi, cette référence, comment vous l'analysez, la saisissez du point de vue de l'historien que vous êtes ?
Alors la référence à Munich est assez intéressante parce qu'on a quand même eu l'annexion de la Crimée en 2014, Et du coup, je pense que les historiens devraient être moins sévères avec Daladier, parce que Munich, et c'est aussi un élément ambivalent de Munich, a été effectivement un énorme abandon, mais Munich a été aussi le départ, au fond, d'un sursaut. Avec Munich, c'est un sursaut qui se produit. Déjà, les opinions publiques comprennent, ce sont les premiers sondages IFOP en France, que la guerre est possible et qu'il va falloir y faire face. Donc il y a eu un basculement de l'opinion publique au moment de Munich, et il y a eu d'autre part un effort de réarmement tenté par le Premier ministre Daladier. Donc Munich n'est pas le même pour Daladier que pour Chamberlain. Chamberlain, lui, persiste dans ses illusions, croit encore à l'appeasement, alors que Daladier pense qu'il a gagné du temps, qu'il a gagné un répit. L'analogie avec Munich aujourd'hui, c'est au fond l'ampleur des concessions que les démocraties sont prêtes à consentir. Et c'est cela qui est assez intéressant lorsque l'on voit aujourd'hui des hommes politiques qui, comme des années 30, s'inquiètent pour le pouvoir d'achat, pensent que l'on va renier les conquêtes sociales pour réarmer, et qui développent un pacifisme qui est au fond un pacifisme des années 30.
Je voulais vous faire entendre, Olivier Mannoni, la lecture d'un texte signé de Philippe Roth, un texte intitulé, enfin c'est un roman, l'extrait d'un texte intitulé « Le complot contre l'Amérique ». C'est le moment où Charles Lindbergh, nazi, fasciste, devient président des États-Unis. Je vous soumets cette lecture, vous nous en direz un mot ensuite.
Et quand, Dieu nous en garde, l'Amérique passera au fascisme, les commandos de Lindbergh auront les moyens de me boucler dans un camp de concentration pour me faire taire, et ils ne s'en priveront pas, vous le savez. Ils pourront même vous enfermer dans des camps de concentration pour vous faire taire, vous aussi, j'espère bien que vous vous en rendrez compte à présent. Mais ce que nos hitlériens du cru ne pourront pas nous enlever, ni à vous ni à moi, c'est notre amour de l'Amérique.
Comment est-ce que le linguiste que vous êtes, Olivier Mannoni, perçoit ces mots justement de Philippe Roth ? On a l'impression qu'il prédit une forme d'avenir grâce au passé, là aussi.
Oui, après c'est un écrivain, donc il imagine.
Bien sûr.
Et il imagine quelque chose d'intéressant, c'est la scission entre le patriotisme réel et un pouvoir qu'il décrit très clairement là comme fascisant. Il n'y a pas aucune espèce de doute là-dessus. Et une idée, moi, qui m'intéresse là-dedans, c'est que face à ce patriotisme réel, on peut aussi avoir un faux patriotisme qui couvre en fait des activités d'ordre mafieux. On n'en a pas parlé, mais aussi bien pour ce qui concerne Poutine que Trump, on a aussi cet élément-là qui joue un rôle et qui a joué aussi un rôle très important sous le nazisme, où les grands dignitaires nazis ont été aussi des mafieux qui ont récolté des fortunes considérables.
Merci à tous les deux, Olivier Vivorca, Olivier Mannoni, de ces analogies fécondes et très très prudentes entre 1938 et 2025. Merci à tous les deux.